Notre espérance est en Dieu. Nous ouvrons nos oreilles à sa parole, nos cœurs s'émeuvent de sa bonté, et nos yeux s'ouvrent sur le chemin qu'il ouvre devant nous, et nos bouches chantent la joie d'être rassemblés dans son alliance. Oui, nous sommes rassemblés ce matin, différents, mais unis par l'écoute de la parole de Dieu, unis par un même désir, une semblable soif de vivre et vivre de sa générosité et de sa justice. Nous essayons en ce jour, en ce culte, d'être attentifs à son appel et de dire paisiblement notre prière, notre espérance et notre confiance en Dieu. Nous essayons de respirer au rythme de son souffle et de chanter le bonheur d'être aimé. Amen. Et je vous invite justement à chanter au psaume 84 dans le recueil. Nous chantons la première strophe et nous nous levons pour chanter. Nous restons debout pour louer, pour dire merci à Dieu. Et ce sont les jeunes du catéchisme qui vont nous conduire dans cette louange, Gauthier et Constance.
Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es la lutte contre la mort, la source de l'amour. Tu es présent déjà dans l'histoire d'Israël et dans la lutte contre toutes les oppressions et dans nos vies désorientées.
Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ceux qui m'écrasent, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes, mais par ton amour, je l'assume. Que ma vie tout entière chante ta louange.
Alors chantons au psaume 84, les strophes 2, 3 et 4.
Thank you.
prenez place, sauf les enfants et les catéchètes qui vont regagner leur groupe. Et nous entrons dans le temps de la prière où nous nous tournons vers le Seigneur, nous nous tournons vers Dieu pour nous présenter à lui humblement tels que nous sommes. Et après cette prière, nous prendrons le chant de la page 22. Romarie, Raphaël.
Bonjour. Notre Dieu, nous inclinons devant toi la tête, reconnaissant de ta présence, conscient de nos manquements à l'égard des autres, de toi et de nous-mêmes. Notre Père, il y a en nous des lieux si froids, vides, perdus, des recoins obscurs, épineux, blessants, blessés, des cicatrices douloureuses d'où coule encore l'amertume.
Nous nous tournons vers toi, car il est vrai qu'avec toi, nous respirons mieux. Nous retrouvons notre souffle, notre santé intérieure, la paix, notre vie. Renouvelle en nous le souffle de l'existence et la grâce de ton amour qui libère des peurs et des oppressions. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce et ensuite nous chanterons le chant de la page 23.
Sur les blessures de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de sa bonté. Sur la tristesse de nos erreurs, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement, la joie de notre vie retrouvée. Notre Dieu ne cesse de ranimer notre vie. Alléluia.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies et ensuite nous chanterons le chant de la page 21.
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends le plaisir, dit l'Éternel.
Avant de lire dans la Bible le texte qui porte notre méditation de ce jour et qui est le texte sur lequel ont travaillé ce matin les jeunes du Caté, ils arrivent ici à 9h hein, quand même. Je vous invite à prier.
Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme l'ami reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit. Donne-nous, notre Dieu, d'accueillir la parole que ton esprit fait lever dans les Écritures. Amen.
Nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 41 à 52. C'est un récit auquel ce matin nous avons donné un titre différent de celui qu'on trouve dans les Bibles. Et il a été appelé « La recherche de Jésus ».
Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses, et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains.
Merci. Ce petit récit pourrait faire penser à un fait divers, de ceux dont on peut être témoin dans les grands magasins, à la plage ou dans les lieux de grands rassemblements. Le petit Jésus a disparu. Une annonce par haut-parleur. Ses parents le cherchent et heureusement le retrouvent. Tout se termine bien. Ou alors ce pourrait être comme un jeu, un genre de cache-cache, grandeur nature. Ou alors ce qui se passe dans les livres de la série « Où est Charlie ?» dans lesquels vos enfants et petits-enfants ont peut-être cherché Charlie, un petit bonhomme avec un personnage et un rayé rouge qui est caché parmi une multitude d'autres petits personnages sur une grande double page. Ou encore, ce récit pourrait être celui de la grande précocité de Jésus. À 12 ans, même à son époque, on est encore un grand garçon, mais pas un adulte. l'adolescence n'existant pas à l'époque de Jésus. Même si dans nombre de récits de l'Antiquité, bien des héros ont commencé leur exploit à l'âge de 12 ans, par exemple Alexandre le Grand ou Cyrus, le roi de Perse, ou même si dans la tradition juive, Salomon, Samuel et Daniel ont commencé à prophétiser aussi dès l'âge de 12 ans, très jeune, eh bien, est-ce que c'est de cela dont veut nous parler Luc? Mais non. Parce que ce n'est pas pour nous faire nous extasier devant la précocité de Jésus que Luc a inclus cet épisode de jeunesse dans son évangile. Les évangiles ne sont pas écrits pour compiler des récits prodigieux, mais pour ouvrir à une double réflexion. D'une part, une réflexion cherchant à comprendre quel est le Dieu révélé par ce Jésus, confessé comme le Christ, et que signifie croire en lui. Et puis d'autre part, une réflexion de celui qui lit les Écritures, une réflexion presque au sens du miroir, réflexion sur ce qui habite, sur qui le construit, ce qui le mobilise, ce qui manque aussi. Et ces deux réflexions s'interrogent et s'épaulent mutuellement. Où est Jésus ? Cette question semble bien être celle posée par le récit. Et elle lance le lecteur dans une quête au cours de laquelle il est possible de découvrir bien des éléments de compréhension de la foi, c'est-à-dire la relation personnelle à Dieu, et aussi des repères sur son propre chemin de vie à chacun. Des repères qui indiquent où le lecteur en est sur son chemin, qui indiquent aussi une direction dans laquelle avancer. Où est Jésus ? C'est cette question qui interrompt brutalement le voyage-retour de Jérusalem à Nazareth, retour des fêtes de la Pâque, la célébration juive, auxquelles Marie et Joseph ont pris part avec Jésus. Ils y vont chaque année, un déplacement qui témoigne de leur piété envers le Dieu qui a libéré les Hébreux de l'esclavage par sa main forte, qui les a fait sortir d'Égypte. Cette montée à Jérusalem, qui est si importante pour eux, eh bien, les parents de Jésus la font connaître cette année-là à leur enfant. À 12 ans, on est en âge de comprendre ce que signifie la Pâque. Et à 12 ans, on commence aussi à être en âge de prendre place parmi ce peuple hébreu qui se comprend comme le peuple élu du Dieu unique. Piété du père et de la mère, transmission à l'enfant. Il serait cependant un peu trop rapide de penser tenir là le modèle d'une famille idéale, voire d'une sainte famille. Et ce n'est certainement pas l'intention de Luc, qui sème dès les premiers mots du récit quelques indices propres à nous faire réfléchir un peu plus loin et un peu plus sérieusement. Luc indique que Marie et Joseph agissent chaque année et qu'ils agissent chaque année selon la coutume. Leur foi et leur piété sont ainsi inscrites dans une répétition de coutumes et de traditions. Chaque année, le même voyage de Nazareth à Jérusalem avec les mêmes étapes, certainement les mêmes compagnons de route. À Jérusalem, les mêmes rituels de célébration de la fête. Et puis le retour par le même chemin. Alors cette année-là, sans se poser plus de questions, Joseph et Marie pensent que Jésus chemine avec d'autres parents de la famille ou des amis, tous ceux qui suivent le même rythme, qui ont les mêmes habitudes chaque année. La routine. Et tout est si bien rodé, tout est tellement dans l'ordre qui doit être, tout est tellement normal dans cette répétition que les parents de Jésus mettent quand même une journée à s'apercevoir que leur fils n'est pas sur le chemin. Et effectivement, Jésus est loin d'eux. Mais il n'est pas seulement loin d'eux géographiquement. Il est éloigné d'eux d'une autre distance que celle qui sépare Jérusalem de l'étape du soir. La distance entre Jésus et ses parents, à ce moment, est aussi celle qui sépare la coutume et la tradition de l'événement inattendu et imprévu. C'est la distance qui sépare une continuité tranquille d'une décision délibérée. Délibérée, c'est-à-dire libérée justement du poids des normes et de l'automatisme des coutumes. Car c'est bien ainsi que Jésus présente les parents de Jésus, Marie et Joseph, comme des croyants bien calés au sein de leurs coutumes, bien installés dans des rythmes et des habitudes largement partagées et finalement normatifs. Tant pis pour le fantasme d'une sainte famille. Mais où donc est Jésus ? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la seule critique que Luc formule dans ce récit, celle vis-à-vis des coutumes et des traditions. Car Jésus, ce grand garçon de 12 ans, devrait quand même être un peu plus respectueux et obéissant à l'égard de ses parents. Il ne devrait pas prendre de décision sans leur en parler, sans leur assentiment. Ça aussi, c'est la coutume, la tradition, la norme, l'ordre. Ce sont les parents qui sont responsables de leur enfant et qui prennent pour lui les grandes décisions, comme celle de l'emmener cette année-là à Jérusalem, de l'emmener au catéchisme une ou deux fois par mois. Ce sont les parents qui ont la tâche, le devoir de transmettre les traditions, les coutumes, les valeurs et les normes. C'est ainsi que les places des uns et des autres, et puis les déplacements, sont organisés à la fois en répétition et en transmission, en ordre, dans la succession des générations. Mais Jésus bouscule ce schéma. Il est resté à Jérusalem. Tant pis pour le tableau de la Sainte Famille. Il ne s'agit pas là de la rébellion d'un adolescent qui manque d'air au sein d'un cocon à la fois familial, même s'il est très affectueux, et socio-religieux, même s'il est tout à fait accepté et reconnu. Luc invite à considérer combien les coutumes et les traditions dont les groupes ont besoin, car elles assurent une certaine cohésion et une identité à leurs membres, et bien combien ces coutumes et traditions représentent aussi pour la foi et pour la vie des risques. Pour autant que la foi et la vie sont fondamentalement accordées à un surgissement et non à une répétition ou à une conformité. Lorsque ses parents retrouvent enfin Jésus après 3 jours de recherche, le premier mot de sa mère est un reproche. Un reproche qui s'explique par l'angoisse éprouvée par les parents. Mais même s'ils ont cherché Jésus de toutes leurs forces, Marie et Joseph ne comprennent pas ce que signifie la nouveauté du comportement de leur fils. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» dit la mère à l'enfant. Elle ne le reconnaît pas dans cette attitude si étrange, si nouvelle, si différente des habitudes, des coutumes, des traditions. Elle ne le reconnaît pas dans cette échappée de l'identité indiscutée depuis 12 ans, Jésus est son enfant. Mais soudain le voici autre, le voici autrement. Car Jésus n'est pas n'importe où et il ne fait pas n'importe quoi. Où est Jésus ? Il est dans le temple de Jérusalem. Ah, les traditions et les rituels peuvent être bénéfiques, car ils indiquent une direction. Même si on décide d'aller vers l'horizon indiqué par un autre chemin. Jésus est au temple. Il est assis au milieu des docteurs, c'est-à-dire ceux qui connaissent et étudient les Écritures. Jésus est au milieu d'eux, de même que Jésus l'a installé exactement au milieu du récit, au mot près, en grec, bien sûr, pas en français. Mais Marie et Joseph ne comprennent pas. Ils sont tellement enfermés dans leurs habitudes de parents, et puis confortés aussi, il faut le dire, à cette place par les usages, les coutumes, la culture, et même par leur propre piété, parce que leur propre piété s'appuie aussi sur le décalogue. Et vous connaissez, dans le décalogue, cette parole, « Tu honoreras ton père et ta mère ». Il faut dire que c'est si habituel de confondre l'honneur avec la soumission. Donc Jésus se tient au milieu des docteurs, dans le temple, mais pas au lieu des sacrifices. Il est assis au lieu des paroles écoutées, prononcées, au lieu des enseignements, le lieu des questions et des réponses. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon Père? C'est vrai que, quand on y réfléchit un tout petit peu, l'attitude de Joseph et Marie est quand même surprenante. Après tout ce que Luc a raconté dans le premier et le début du deuxième chapitre de son évangile, vous savez, de l'annonce de l'enfant, de la naissance de l'enfant à sa venue au monde, Luc a mobilisé tellement d'anges, de Gabriel qui va annoncer la naissance de Jésus à Marie, à toute l'armée céleste qui chante la nuit de la naissance de l'enfant. Après l'émotion et les paroles d'Élisabeth, la cousine de Marie, celle de Siméon, le guetteur du salut, celle d'Anne, la prophétesse dans le temple, Joseph et Marie sont quand même bien placés pour savoir que cet enfant n'est pas n'importe quel enfant, qu'il ne leur appartient pas et qu'il n'est pas né pour devenir charpentier dans la succession de Joseph. Mais ni eux, ni personne d'ailleurs, n'est à l'abri d'un affaiblissement, d'un affadissement, d'un élan premier, d'une révélation, d'une expérience, quand elle se dépose dans les cadres des habitudes, des coutumes et des rituels. Où est Jésus? Il est au milieu de l'écriture de Luc, au temple, au milieu de ceux qui lisent, interprètent, fouillent, scrutent ces écritures, il est au milieu de ceux qui parlent. Jésus écoute et interroge. Et en deux mots, Luc donne une expression de la foi. Écouter et interroger, et pas l'un sans l'autre. Écouter. Avec tout ce que ce verbe implique d'ouverture, de disponibilité d'esprit, d'attention, d'effort de compréhension aussi, voire de traduction. Et puis interroger, puisqu'il s'agit de comprendre, de chercher du sens, de prendre du recul, comme de chercher la question qui porte les paroles ou la question qui est portée implicitement par les paroles, puisqu'il s'agit d'interpréter, de réinterpréter, d'imaginer. Écouter et interroger, c'est créer un espace et un temps en renonçant à la fusion comme à l'immédiateté, en se dégageant de la soumission et de la répétition, en acceptant d'être différent tout en se tenant toujours en relation. Écouter et interroger, deux gestes fondamentaux de la foi. La foi qui ne se confond ni avec les coutumes et qui ne se fond pas non plus dans les traditions. De gestes non pas pour se débarrasser complètement et définitivement des coutumes et des traditions, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable, mais pour en exiger toujours un sens et une cohérence avec ce qui les fonde, ces traditions, et avec le monde qu'elles promeuvent. Écouter et interroger, c'est une double disposition d'esprit et de foi qui ouvre l'espace du possible, et le possible n'est pas encore là, l'espace du peut-être, et ce qui peut-être n'est pas ce qui est. D'ailleurs, ceux qui écoutaient Jésus étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Stupéfait, c'est un drôle de mot parce que En français, il implique souvent une espèce d'immobilité. On est figé, vous savez, de la stupeur, même à la stupidité. Le verbe grec utilisé par Luc est beaucoup plus dynamique. Littéralement, les gens qui sont là et qui regardent ce qui se passe dans ce lieu du temple, ces gens sont en extase. Ils sont transportés hors d'eux-mêmes, hors de là où ils sont. Ils sont déplacés des habitudes et des coutumes. Ils sont en possibilité d'existence. Existence, c'est un mot de la famille d'extase aussi. L'existence qui dit la dynamique d'être à laquelle chacun est appelé, à un devenir encore à n'importe quel moment de la vie. Écouter et interroger ouvre un espace pour la transcendance qui appelle et qui libère l'humain de la soumission aux traditions, aux normes, à l'ordre social et religieux. Écouter et interroger et répondre font appel à la liberté et à la responsabilité personnelle de chacun. Luc en donne pour modèle un Jésus de 12 ans, plus jeune que chacun de nous dans ce temple, oui. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer à exister. Et le mois dernier, nous avions bien vu un Abraham âgé de plus de 75 ans quand Dieu l'appelle à quitter sa maison et sa patrie. La circulation des paroles hors des conformismes et des conservatismes donne à comprendre que pour les vies humaines, nos vies humaines, Jésus, le Christ, n'impose pas de formule impérative ni de règles immuables, et que le Dieu qu'il révèle n'est pas le garant d'une institution ou d'un système social. Jésus crée des brèches dans les traditions, dans les enseignements, dans les représentations, dans les règles. Et ces brèches sont des ouvertures vers son Père, vers Dieu, vers la transcendance qui donne sens aux existences des humains, un sens en forme d'insurrection contre tout ce qui opprime les humains, un sens en forme de résurrection dans ce qui tue la vie. Alors bien sûr, à ce moment de l'évangile de Luc, il est encore un peu tôt pour Jésus qui n'a que 12 ans. Mais tout est déjà là, en germe. Il rentre avec sa mère, son père qui est sur terre. Il leur est soumis, écrit Luc. Tout rentre dans l'ordre, semble-t-il, jusqu'au jour où Jésus ne fera plus que s'occuper des affaires de son Père qui est dans les cieux et qui est aussi le nôtre. Amen. rassemblés et éclairés par l'écoute de la parole, je vous invite à vous lever pour confesser notre foi avec un texte très ancien du 8e siècle, un texte d'Alcuin d'York, qui fut l'un des ministres, on pourrait dire, de Charlemagne, de ceux qui ont mis l'école, le système scolaire en place à cette époque. Constance ? Comment ? Oui, c'est ça.
Nous croyons en la lumière éternelle qui vient briller dans nos cœurs, en la bienveillance éternelle qui nous délivre du mal, en la puissance éternelle qui vient nous soutenir, en la sagesse éternelle qui éloigne les ténèbres de notre ignorance, en l'amour éternel qui a pitié de nous.
De tout notre cœur et de tout notre esprit, de toute notre âme et de toutes nos forces, nous nous enracinons en lui et nous puisons son amour infini qui nous fait demeurer en sa sainte présence. Amen.
À la page 24. Asseyez-vous. Quelques annonces à partager en ce dimanche 6 octobre. D'abord, merci aux jeunes du catéchisme pour leur présence et leur participation et pour la grande discussion qu'on a eue avant le culte. Vous connaissez tous leurs prénoms ? Hein ? On recommence ? Venez. Dis-le du fort.
Bonjour, moi c'est Raphaël.
Raphaël, venez tous les trois.
Voilà. Rebonjour, moi c'est Romarie.
Moi c'est Constance.
Bonjour, je suis Gauthier.
Voilà. Oui, il y en a qui les connaissent depuis longtemps, puis il y en a qui les voient pour la première fois, alors voilà. Alors, ce qui va se passer dans la semaine, après dimanche, on reviendra dimanche tout à l'heure, aujourd'hui tout à l'heure. Mercredi 9 à 19h30, eh bien, le groupe de lecture de la Bible poursuivra ses partages autour du livre d'Ésaïe, voilà, que nous lisons cette année. Et nous lirons donc mercredi 9 à 19h30 le 6e chapitre, c'est le récit de la vocation d'Ésaïe. Voilà, ce groupe est ouvert, vous pouvez vous y joindre. On grignote un petit quelque chose, je crois, au début, en apportant des choses simples qui ne nécessitent pas de vaisselle. Vendredi 11, c'est le groupe de Théo et Psycho qui se réunira. Alors ce groupe, qui est aussi largement ouvert, a choisi de lire cette année un des ouvrages de Marie Malmari, Le sacrifice interdit, et ce sera le chapitre 2, je crois. C'est le chapitre sur le commandement d'amour qui sera discuté vendredi 11. Et puis samedi 12, alors je voulais vous signaler que c'est le rassemblement régional de l'ACAT. L'ACAT, c'est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort, et que ce rassemblement a lieu à l'église Notre-Dame de l'Espérance, rue de la Roquette, donc tout près d'ici, et qu'à la messe de 18h30 réunira à la fois les membres du rassemblement de l'ACAT et les paroissiens de Notre-Dame de l'Espérance, et que j'y apporterai la prédication. Et dimanche prochain, le 13 octobre, eh bien, il y aura le culte, bien sûr, à 10h45. Et nous entourerons Léon et Charlie, qui sont deux jeunes enfants qui recevront le baptême à l'occasion de ce culte, donc les enfants d'Anne Le Garec et Édouard Bechtart. Revenons pour aujourd'hui, où il y a deux événements. Un ici, qui est bien sûr la reprise des cantates de Bach cet après-midi dans ce temple, et je voulais vous signaler que le cantique que nous allons chanter tout à l'heure lors de l'offrande est le cantique inspiré de cette cantate. Donc si vous allez au concert cet après-midi, eh bien vous entendrez la musique à nouveau. C'est quelque chose que nous allons essayer de faire une fois par mois, donc le dimanche de la cantate, le premier dimanche du mois, d'essayer si possible de chanter le cantique inspiré par la cantate, et si possible également, j'essaierai de prendre les textes bibliques qui ont servi de base à la cantate pour la prédication du dimanche. Je dis si possible parce que, bah, par exemple, le premier dimanche du bois, c'est le catéchisme qui sera prioritaire, et qu'il y a aussi des cantates qui ne reposent pas sur un texte biblique, comme celui de cet après-midi d'ailleurs, qui est composé de prières, mais pas de textes de lecture de textes bibliques. Donc on va essayer de faire comme ça chaque premier dimanche du mois, avec aussi l'accord des autres prédicateurs qui viendraient les premiers dimanches. Et puis cet après-midi à 17h, je voulais vous signaler aussi un événement pour toute l'Église protestante unie de France, qui est l'ordination reconnaissance de ministère de Christina Michelsen comme aumônier des hôpitaux envoyé à la Fondation des Diaconesses. Christina Michelsen est donc aumônier à l'hôpital des Diaconesses à Rueil et à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon, qui depuis quelques années a rejoint le giron de la Fondation des Diaconesses. Donc elle sera ordonnée reconnue, c'est un peu compliqué, mais c'est la terminologie de l'Église, aujourd'hui à 17h à la paroisse voisine du Bon Secours, la paroisse luthérienne qui n'est pas très loin d'ici. Donc voilà. Et puis, notre amie Nicole Gigliotti me demande de signaler que jeudi 10, en soirée, il y aura un concert à la paroisse de la rue Madame, au profit de la rénovation de la chapelle de la rue Madame, puisque la paroisse de Pantemont-Luxembourg s'est lancée dans des grands travaux de réflexion de leur chapelle, et donc ce concert servira à en financer une partie. Et puis un peu plus loin, mais il faut l'annoncer à l'avance, le samedi 19 octobre, c'est la journée du consistoire, dont fait partie notre foyer de l'âme, une journée du consistoire qui aura lieu à l'oratoire et qui a pour thème le culte. Il y a une grande affiche dans l'entrée du temple. Et c'est malheureusement le même jour, il vous faudra choisir. Cette journée du consistoire est ouverte à qui souhaite y aller. C'est le même jour que la journée du christianisme social, qui est une journée annuelle, donc qui se tient à l'IPT tous les ans en octobre, qui est organisée par la commune du christianisme social du sud parisien, le sud Paris, et qui a pour thème cette année l'avenir de la planète, une question de justice. Vous avez des cartes semblables à celles-là sur la table au fond du temple qui vous donnent tous les renseignements, les lieux, les heures, et puis aussi le mail, le téléphone pour s'inscrire pour l'organisation du repas. C'est juste pour ça. Donc ça a lieu à la faculté protestante de théologie samedi 19. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Isabelle? C'est le premier dimanche du mois et c'est aussi le mois de la collecte de denrées alimentaires, de produits d'hygiène et d'entretien pour au profit des Restos du Cœur. D'autres choses ? Eh bien alors, voici donc le moment de l'offrande, qui est aussi une manière de dire notre confiance et notre espérance. Et donc nous allons chanter pendant cette offrande le cantique 281. Rassemblons maintenant dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres.
Notre Père, nous te remercions d'éclairer notre présent et de nous ouvrir toujours un avenir d'humain, à découvrir, à inventer pour habiter la terre de manière renouvelée.
Nous te confions celles et ceux qui ne voient que des répétitions ou des impasses, celles et ceux qui hésitent, et celles et ceux qui cherchent. Aide-nous à devenir attentifs à leurs questions et à leurs peurs, et à chercher ensemble des réponses, des chemins.
Donne-nous la persévérance d'écouter, le courage d'interroger, et la sagesse de nous comporter respectueusement envers toute la création. Nous te demandons encore une chose.
Éloigne de nous toute résignation, toute idée qui nous ferait penser que tout n'est qu'un éternel recommencement. Permets-nous, bien au contraire, de continuer à croire et à affirmer que chaque instant qui passe peut être différent de tous les autres.
Et dans le cœur ou de la voix, chacun de nous, s'il le souhaite, peut se joindre à la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Nous avons été appelés et rassemblés. Nous voici maintenant envoyés par Dieu pour que sa volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, une fête d'accueil, de reconnaissance, de vitalité et de joie. Enfants et parents, jeunes et adultes, nous sommes tous faits, appelés à la fête de la rencontre avec Dieu. Et que notre présence dans le monde soit digne de cette invitation, soit signe de cette invitation et de sa joie. Que l'Esprit de Dieu nous fasse vivre ce que nous croyons. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.